L'entrevue.
L'entrevue ?
L'entrevue ?
L'entre quoi ?
L'entrevue. L'émission d'actualité locale sur Radio-La.
3, 2, 1, 0.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio-La, la web radio de proximité du pays de Dieulfi-Bourdeaux, Drôme, Monde. Vous nous écoutez sur les ondes numériques, sur l'application Radio-La et aussi en podcast sur Radio-La Média. C'est Vincent au micro, toujours dyslexique, et oui, 10 un jour, 10 toujours. On se retrouve pour cette deuxième partie de Dyslexique et alors, le titre de l'émission, désolé s'il y a beaucoup de dyslexiques dans mon texte, une émission spéciale sur la dyslexique, où ce ne sont pas des spécialistes qui nous en parlent, mais ceux qui la vivent, des parents de dyslexiques ou des dyslexiques eux-mêmes. Des entrevues qui, j'espère, permettra de mieux comprendre comment on vit avec une dyslexie et d'apporter quelques éclairages aux enfants dys et à leurs parents, souvent désemparés. La semaine dernière, nous avons vu avec nos deux invités, Bertrand et Rabia, dys et cinquantenaires, comment ils vivaient avec et comment ils se sont adaptés pour vivre avec, souvent en développant d'autres compétences qui ne sont pas négligeables. Vous pouvez retrouver cette émission sur l'application Radio-La. Cette semaine, nous accueillons Agatha Martineau, institutrice et dyslexique. Oui, c'est pas commun, Agatha. Ainsi que Sophie Motège, maman de 3 enfants dyslexiques. Tous les deux vont nous expliquer comment elles se sont adaptées pour accompagner les dys et de quels outils on dispose aujourd'hui. Bonjour Agatha Martineau. Bonjour Sophie Motège. Pour commencer, est-ce que chacun à votre tour, vous pourriez reprendre le titre de cette entrevue, dyslexique et alors, avec le ton que vous voulez, et en ajoutant un mot qui définirait votre manière de vivre votre dyslexie. Qui commence ? Agatha.
Dyslexique et alors, même pas mal.
Dyslexique et alors, un combat.
Alors, on va commencer cette interview par Agathe Martineau. Tu es institutrice en classe de CE1 et CE2, c'est ça ?
Pointe-Laval.
À Pointe-Laval. Comment on devient institutrice alors qu'on est dyslexique ? Déjà, est-ce que tu peux commencer par ton parcours scolaire ? Comment, toi, tu as vu ces difficultés liées à la dyslexie ?
Quand j'ai commencé l'école, j'ai galéré avec la lecture. J'ai mis très, très, très longtemps à apprendre à lire. J'ai commencé à vraiment lire en sixième et j'ai orthographié à peu près correctement en seconde. Et donc, il y a un maître qui m'a dit « Tu sais, t'es intelligente, tu vas y arriver. » Donc, je me suis accrochée à cet espoir-là et je me suis dit que je voudrais être un jour quelqu'un qui puisse dire la même chose à un enfant. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de franchir les obstacles jusqu'à obtenir le diplôme.
Sophie, tu es artisante, créatrice tricot, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui.
Dieulfitoise, tu n'as pas de dyslexie, mais tu as 4 enfants, et maintenant âgés entre 28 et 34 ans, c'est ça, je crois, il me semble. Et dont 3 sont dyslexiques. Comment as-tu découvert la dyslexie de ton fils aîné et comment, quand on apprend ça, comment on réagit ? C'est quoi le...
Alors, mon fils aîné a eu beaucoup de mal à apprendre à lire et son père est dyslexique, le père de mes 4 enfants. Et quand il voyait les difficultés de son fils, pour lui, c'était insupportable. Moi, je ne savais pas ce que c'était que la dyslexie, même si je savais que mon frère était dyslexique aussi, est dyslexique.
Petite parenthèse, je suis le frère de son fils.
Je me suis dit qu'il fallait de l'aide pour Félix. Et il a été suivi en orthophonie, mais il n'a pas eu de diagnostic tout de suite. Ça a été très long. Et il a eu son diagnostic, il était en 5e. Donc là, je me suis vraiment penchée sur la question et je me suis renseignée. Je suis allée voir une association qui s'appelle la Pédadrome. Enfin, c'est national, mais il y a une antenne dans la Drôme. Et j'ai beaucoup appris avec ça. Et quand mes 2 filles, qui sont jumelles, les 2 dernières, ont commencé la lecture, ça a été la même chose. Donc elles ont été prises en charge beaucoup plus tôt. Voilà, ça c'était le début.
Il y avait déjà une évolution entre les deux. La dyslexie, on l'acceptait. Bon, toi, tu connaissais, mais comment ça se passe au niveau des écoles? Est-ce qu'on peut dire, justement, mon fils est dyslexique? Est-ce que c'est les instits, justement, Agatha, est-ce que toi, tu repères des dyslexies? Comment on intervient? Comment ça se passe?
Un enfant qui, par exemple, en grande section CP, a du mal à reconnaître ses lettres, on se dit, ah, quand même, il n'entre pas dans le code. Moi, ça éveille quelque chose en moi, parce que c'est des choses que j'ai rencontrées pour moi ou pour mes enfants. Et puis après, bah, on le voit très vite dans la façon dont l'enfant entre dans la lecture, ou plutôt n'entre pas dans la lecture. Et bon, bah, après, on met en place tout ce qu'on peut pour le soutenir au maximum, parce qu'on sait que son chemin va être plus ou moins long en fonction de son atteinte, parce que tous les enfants ne sont pas atteints de la même manière. Il y a des dyslexies légères où l'enfant, en étant pris en charge par une orthophoniste, va vite progresser et va vite devenir autonome sur la lecture. Et il y a des enfants qui vont porter ça pendant des années et ils vont arriver à s'en sortir à peu près, mais ça restera toujours un combat, l'écrit et la lecture et l'écriture.
On reviendra sur les outils qui sont mis en place, les aides qu'on peut avoir. On va essayer de les lister pour justement informer. Qu'est-ce que la dyslexie? Déjà, on peut dire deux choses. Vous allez l'expliquer, vous, à votre manière, si vous pouvez. Mais déjà, la dyslexie peut être héréditaire.
Génétique.
Génétique, donc voilà. C'est le cas aussi pour, du coup...
Oui. Oui.
Agatha, tu as...
Moi, j'ai trois enfants et ils sont tous les trois dyslexiques à des niveaux différents.
D'accord. Et puis, c'est quoi exactement la dyslexie? Parce que même la dernière émission, on sait plus ou moins qu'il y a une confusion sur les mots, mais comment on explique toutes ces choses?
C'est un problème de connexion au niveau du cerveau qui fait qu'on a du mal à transcrire ce qu'on entend ou ce qu'on lit à l'écrit. Ce qui fait que ça ne passe pas tout de suite et il faut mettre en place des systèmes pour transcrire. Et ça se travaille aussi, mais c'est ça. Enfin, c'est très synthétisé, mais c'est ça. C'est vraiment un problème de connexion.
Voilà, on est déconnecté. Les chercheurs parlent maintenant des 10 en général, parce qu'ils regroupent toute la grande famille des 10 avec les dyspraxiques qui sont plutôt atteints du côté moteur, les dysphasiques qui sont atteints sur le langage oral, les dyscalculiques sur les nombres, enfin les dyscalculiques, etc., etc. Et en fait, ils disent qu'il faut chercher autour de la dys plus que de la dyslexie ou de ceci. La dyslexie, c'est celle qu'on connaît le mieux, finalement. Et puis, finalement, c'est la fin du parcours. Si on est dysphasique, on risque d'être d'autres dys dans la foulée, puisqu'on est atteint sur le langage oral, donc on va être atteint sur le langage écrit par ricochet. Donc, fort heureusement, on connaît plus la dyslexie que le reste.
Alors, c'est un handicap qui n'est pas visible. Est-ce que, justement, cette invisibilité, ça joue des tours? C'est difficile de pouvoir en parler autre part? On a vu comment Rabia et Bertrand la vivaient, puisque le fait que c'est invisible. On traite souvent de fainéants parce qu'ils ont du mal à apprendre. Mais par contre, ça ne joue pas sur l'intelligence, en fait. C'est juste un handicap. Comment vous expliquez ça?
Moi, je sais qu'il y a eu un médecin scolaire qui a eu vraiment une phrase super, qui a expliqué aux enseignants, c'est un handicap invisible. Et effectivement, le jour où mon fils, je lui ai dit, c'est un handicap, tu n'y es pas responsable et tu dois vivre avec, il a pu avancer. Ça a été un déclic pour lui.
Oui, moi je dis souvent aux enfants que ça va être long, c'est un chemin qui est plus long que celui des autres, mais qui vont, sur le chemin, ils vont acquérir des compétences que les autres n'auront jamais. Parce que leur persévérance, toutes les compétences qu'ils vont développer pour arriver à à rejoindre les copains. Ils vont les garder toute leur vie et ça va être un bagage, un plus pour après. Dans tous les pans de la vie, en plus, je crois.
Est-ce que l'école est adaptée aujourd'hui ou pas encore? Alors, c'est difficile, Agatha, pour toi, de répondre à cette réponse. Ici, il y a pas mal de gens qui sont passés par les AMANA aussi, qui est justement beaucoup plus adaptés à ça. Mais justement, dans les cursus scolaires classiques et même jusqu'en secondaire, est-ce que tu as vu une adaptation ou à chaque fois, il faut renouveler, tu me disais, Sophie
Pour les parents, c'est tous les ans recommencer les dossiers, les demandes d'aide et il ne faut pas lâcher. Même mes enfants ont quitté le système scolaire depuis quand même maintenant plus de 10 ans, mais j'ai l'impression que c'est toujours la même chose de ce que j'entends d'enfants que je vois maintenant. Et il arrive un moment aussi où les enfants n'ont plus envie d'être différents quand ils arrivent à atteindre, puisque mes enfants ont eu leur bac et ont fait des études, mais ils ne veulent plus avoir cette étiquette, donc ils ne demandent pas les aides. Et bon, au dernier moment, des examens, ils font « Oh, peut-être que si, je veux mon tiers-temps ». Donc il faut refaire les dossiers, refaire les démarches, et ça marche.
Ces aides, c'est quoi justement les dossiers que vous faites? Ça consiste en quoi? Ça apporte quoi?
Principalement le tiers-temps pour les examens, c'est le plus gros. Après, normalement, demander...
Le tiers-temps, c'est justement avoir plus de temps. Hein.
Avoir le tiers du temps en plus à chaque examen.
D'accord.
Après, bon, il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui arrivent à le mettre en place. Ça demande des efforts au niveau du collège, au niveau du lycée. Mais ça doit se faire. Mais voilà, il faut redemander chaque année, et on entend des parents encore pour qui c'est compliqué. D'avoir les dossiers de la MDPH, la maison du handicap, qui diagnostique et qui transfère, et après que l'école ou le collège prennent les choses en main.
Alors, les enfants, après, quand ils passent des examens, quand ils passent au collège, et après au lycée et en BTS, ils peuvent avoir, pour passer leurs examens, des lecteurs-scripteurs en fonction du niveau de dyslexie. Ils peuvent avoir des tiers-temps, ils peuvent utiliser un ordinateur. Après, tout ça, ça va être dans le dossier MDPH. On fait des demandes en fonction du cas de l'enfant. C'est étudié à la MDPH et ils accèdent à l'aide ou pas. Parce qu'aujourd'hui, autant moi, mon fils a eu une AESH pendant de nombreuses années, du CE2 à la 4e. Mais aujourd'hui, il faut se battre encore plus qu'à l'époque pour obtenir des aides pour ses enfants, les enfants dyslexiques. Il faut vraiment qu'ils soient très atteints et qu'ils aient des troubles associés pour que maintenant... On accède à cette demande. Alors qu'en fait, ils ont besoin de soutien tout au long de la journée pour les aider à lire et à prendre le temps de construire leur propre chemin vers l'apprentissage. Quoi.
Sophie, tu m'as dit qu'il n'y a pas longtemps, tu avais rencontré, je ne sais plus qui avait un enfant qui était justement en grande difficulté par rapport à cette dyslexie. Et tu, justement, as proposé ton soutien. Qu'est-ce que tu as vu de différent? Comment toi, justement, maintenant, aujourd'hui, tu abordes et tu les premières choses que tu fais pour aider un enfant dyslexique qu'est-ce que tu dis à ses parents pour rassurer aussi, quelque part?
Aux parents, je leur dis que, qu'il ne faut pas lâcher et qu'il ne faut pas tout de suite le mettre dans la case, il n'arrivera à rien. Au contraire, il faut qu'il trouve et l'aider. Il faut tout faire pour l'aider. Et moi, quand j'ai un enfant face de moi pour l'aider, j'essaie toujours de positiver tout ce qu'il apporte comme réponse. Et jamais lui dire « c'est pas bien ce que t'as fait ». Et toujours le faire avancer et dire « tu vas y arriver ».
Agatha ?
Oui, voilà, faut encourager tout le temps, soutenir là où ils en sont, et puis étayer au maximum les apprentissages pour leur permettre de créer du sens au fur et à mesure, parce qu'en fait, ils ont besoin... C'est comme un escalier qui monte, sauf qu'il faudrait qu'ils aient deux fois plus de marches que les autres pour arriver au même endroit. Donc, bah, faut créer ces marches intermédiaires. Et puis, il faut les aider à les monter.
Comment on aborde justement la lecture? Alors, bien sûr, on ne soigne pas, mais on trouve des techniques pour justement lire plus facilement, l'orthographe, etc. Mais dyslexique, comme je disais en début d'émission, on l'est toute sa vie. Après, on arrive à la contourner. Est-ce que vous avez quelques petits exercices, conseils? Bien sûr, il y a l'orthophoniste. Mais on a vu aussi qu'il y a d'autres aides. Il y a l'orthoptiste, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de toutes ces aides? Qu'est-ce qu'ils faisaient justement quand ils avaient tes enfants, Sophie, quand ils allaient chez l'orthophoniste? Et toi aussi, comment t'accompagnes justement un élève dyslexique? Et bien sûr, toi aussi, Agatha, encore plus, hein, des astuces. Agatha, peut-être, alors.
Je ne sais pas s'il y a vraiment des astuces, parce qu'en fait, c'est chaque dyslexique doit trouver ses propres chemins. Donc, la meilleure aide qu'on puisse lui proposer, c'est de lui proposer une multitude de chemins, le plus possible. Enfin, tous ceux qui nous viennent à l'esprit, à un moment, il faut lui proposer. Moi, je leur propose des textes avec les syllabes écrits en deux couleurs. Comme ça, ils savent, ils ont déjà pas le découpage syllabique. Ils ont, voilà, c'est une petite marche en plus pour eux. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup lire à ses enfants, en fait. Il faut se dire que comme ils n'accèdent pas eux-mêmes à cette connaissance et à ce plaisir, l'imaginaire, les constructions syntaxiques, il ne faut vraiment pas hésiter à lire, même bien au-delà de l'école primaire, à des enfants dyslexiques.
Sophie, peut-être. Justement, vos enfants, toi, tu me disais que tu conseillais toutes les disciplines aussi extrascolaires, périscolaires, c'est-à-dire que ça peut être la musique, la danse. Pourquoi tu conseilles ça?
Je pense que les enfants doivent trouver quelque chose qui va les passionner, qui va les pousser vers l'avant, qui va leur donner aussi l'espoir et puis l'idée d'un avenir. Il faut que ces enfants-là, ils aient l'idée de quelque chose au bout de ces difficultés pour qu'ils puissent avoir le courage de franchir les étapes. Et puis parfois, moi, mon aîné a fait très peu d'activités extrascolaires parce que déjà l'école, c'était fatigant. Et quand il rentrait, il aimait jouer chez lui tranquillement. On lisait beaucoup d'histoires, voilà. Mais lui, il n'était pas en capacité de s'investir dans d'autres apprentissages. Donc il faut gérer en fonction des enfants et des personnalités. Mais c'est sûr que plus ils vont être ouverts à des choses et plus ils vont trouver de solutions dans d'autres matières que les matières scolaires.
Sophie, ton fils aîné, Félix, est designer, hein, c'est ça?
Designer 3D.
3D, plutôt bien réussi, hein, puisqu'il travaille quand même pour des très grosses boîtes, donc il a bien réussi. Et en fait, on découvre justement, moi j'ai en étudiant sur la dyslexie, me renseignant un petit peu en préparant cette émission, j'ai découvert que 40% souvent dans les classes d'études secondaires, de créatifs, il y avait 40% de dyslexie. Donc, en fait, je pense qu'il avait des capacités peut-être qu'il ne soupçonnait pas, qui était justement la vision en 3D, qui est important dans son métier. Mais tu m'as dit aussi qu'il y a eu un moment où il a eu un déclic pour justement aller plus loin et faire son métier. Ça a été par quoi?
Son déclic, non, je ne sais pas. En fait, Félix, son moteur, ça a été le vélo. C'était son objectif, c'était d'aller dans le vélo, mais techniquement. Pas sportivement, et ce qui fait qu'il a toujours été plus loin dans les études. Et il s'est battu tout le temps, il voulait réussir, et il travaillait plus que tout le monde, et voilà. Et il a découvert le design, il voulait faire du design, et la 3D, il l'a découvert très tard, mais effectivement, je ne savais pas que ça... C'était pour les dyslexiques quelque chose de bien, enfin, et que voilà. Mais je sais que bon, mes enfants ont dû travailler bien plus que tous les autres. Une de mes filles, elle est chef en cuisine, elle a fait des études de restauration, et pour apprendre, elle a dû passer des heures et des heures à apprendre, travailler bien plus que tous les autres, et elle avait les résultats, pas les meilleurs, mais elle était satisfaite quand même d'y arriver. Et elle, c'était la passion, c'était la cuisine, voilà. Et la troisième, c'est, on va dire, plutôt le cinéma. Et elle a fait des études plus littéraires. Elle a été très bien accompagnée par son orthophoniste pour apprendre l'anglais, ce qui a été aussi une force. Et elle a réussi à écrire plus facilement que les autres. Mais bon, c'est toujours été un combat aussi, quand même.
Ça joue sur la confiance en soi aussi, un peu.
Énormément.
Ouais, ce qui n'est pas évident. Ce qui m'étonne justement sur tes trois enfants, c'est qu'ils parlent couramment presque l'anglais. Et même Félix, qui vit en Suède, je ne sais pas s'il a d'autres langues qu'il pratique. Mais ça m'a étonné parce que justement, moi, la langue étrangère, c'est une catastrophe. Je ne sais pas pour toi, Agatha, mais...
Moi, je suis nulle.
Voilà. Comment ils l'ont appris, justement? Quel a été le déclic pour que, justement, ils n'ont pas eu peur de se lancer?
Ils l'ont appris en étant à l'étranger. Ouais. Donc, en vivant à l'étranger, Chloé est allée faire une année d'Erasmus en Islande, Félix au Danemark. Donc là, ils étaient obligés de parler anglais. Donc, voilà.
Ils ont un plaisir à parler anglais. En plus, ça va vite. Hein.
Oui, ils aiment ça.
Et justement, pour revenir sur tes deux filles... Et Élodie, justement, qui est chef, comment on dit, je ne sais plus, chef cuistot.
Chef cuisinière.
Chef cuisinière. On peut, quand on voit ses plats, il y a de la créativité. Moi, je suis toujours étonné de la créativité, des mélanges qu'elle ose faire. Et quand j'ai lu le bouquin 10 et célèbre, il y avait beaucoup de chefs cuisiniers qui étaient dyslexiques. Et un disait que avant même de faire un plat, il savait les ingrédients qu'il allait mettre, et avant même de le faire, il savait le goût que ça allait avoir. Donc il y avait justement... Alors je ne sais pas si Élodie a développé ses capacités, mais c'était hyper intéressant.
Je ne sais pas, il faut lui demander.
On revient, Agatha, justement tes études, comment tu as réussi à... Parce que un prof des écoles, un STIT, qui enseigne l'orthographe et justement la lecture dyslexique, alors que c'est son gros problème, comment tu as fait pour t'adapter, comment contourner, etc. Parce que ça, c'est une question que Bertrand, qui est encore à côté de moi, voulait te poser, parce que ça c'est assez impressionnant.
J'ai poursuivi mon rêve, en fait. Hein. J'ai bossé d'arrache-pied. C'est pour ça que j'ai loupé le wagon de l'anglais, parce qu'en fait, en sixième, moi, je commençais à lire, donc je commençais à comprendre la grammaire, la syntaxe, etc. Donc après, j'ai passé tout mon collège, en fait, à apprendre les règles de grammaire. Et j'ai eu... moi aussi, j'étais une collectionneuse de zéro. Et j'ai, avec ma prof de troisième, on a sauté de joie le jour où j'ai eu zéro pile, parce que j'avais commencé à moins 69.
Et après, justement, les études, quand...
J'ai pas été prise à l'UFM parce qu'ils m'ont trouvé pas assez bonne. J'ai passé toutes mes années de fac à louper un UV que j'avais au mois de septembre. Et du coup, j'ai passé le concours en candidat libre. Et là, j'ai pu en fait apprendre exactement comme je voulais, à l'allure où je voulais. Et du coup, je l'ai eu du premier coup. C'était inespéré pour moi, mais... je crois qu'il faut... Enfin, voilà, une fois qu'on sait comment on fonctionne, c'est important de se faire confiance et d'y aller, quoi.
Il y a eu des travaux... Ta fille, comme Rabia, qu'on voyait, joue au Scrabble. Ça, j'ai toujours pas compris, parce que moi, j'évite le Scrabble, mais un orthographe. Qu'est-ce qu'elles y trouvent? Tu leur as posé des questions. Après, vous étiez beaucoup jeu chez toi. Comment ça arrivait, ça? Parce que tu as développé beaucoup de choses hein, en elle, à travers, par exemple, le tricot, déjà en premier. Et puis aussi, la cuisine, je crois que c'est toi qui as transmis un peu cette passion à Élodie. Comment...
Je l'ai laissé cuisiner.
Et le Scrabble ?
Je ne sais pas si elle joue beaucoup au Scrabble, mais elles font des mots fléchés.
Des mots fléchés ?
Oui, elles aiment bien, ouais.
Tu comprends ou pas, du coup ?
Ben, je ne sais pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que je peux ne pas comprendre ?
Bah que justement, quand on a des problèmes en orthographe, justement, Agatha, on joue aux mots fléchés.
Je fais aussi des mots fléchés. On joue avec les mots, c'est un plaisir. On finit par prendre du plaisir à ce qui nous a posé des difficultés.
D'accord. L'orthophoniste, il y a l'orthophoniste, bien sûr, pour aider à rééduquer. Il y a le temps adapté, ça on a vu. Il y a des logiciels aussi. Est-ce que vous avez utilisé certains logiciels qui permettent de la lecture, etc. Vous pouvez retrouver sur Internet facilement des liens là-dessus. Il y a pas mal de publicités, je ne sais pas ce que ça vaut, mais qui sont utiles justement pour la lecture, des livres qui sont aussi adaptés, ou justement... Parce que le problème, justement, quand on est dyslexique, c'est qu'on n'arrive pas à voir le mot global. On a justement un problème de vision. Donc, on voit les mots qui se déplacent, quoi, les lettres surtout. Donc, on n'arrive pas à bien photographier le mot. Et notre œil fatigue, hein, parce qu'il est obligé de revenir. Il y a des chercheurs qui ont vu qu'un dyslexique, quand son œil se porte, navigue au niveau d'un mot, tandis que des non-dyslexiques, ça glisse d'un mot à l'autre. Donc c'est ça qui apporte beaucoup de fatigue. Et donc ces propres chercheurs ont même développé une lumière qui permet justement de la lecture moins difficile. Je ne sais pas si tu es au courant, Agatha, là-dessus.
Alors moi, j'avais beaucoup cherché à l'époque où mon fils était encore au collège. J'avais acheté un logiciel très cher, qu'il n'a jamais utilisé. Et un ordinateur très cher. Mais en fait, ce qui est important, c'est que ce ne soit pas plus compliqué que la dyslexie en elle-même, en fait. Parfois... Il faut que l'outil soit vraiment pratique. Et moi, à l'époque, ils n'avaient pas trouvé encore... J'avais entendu parler de la lumière, mais je m'étais dit, oh, pff, encore un truc à 300 balles qui ne va pas marcher. J'avais laissé tomber.
Il n'y a pas d'aide là-dessus ?
Non.
Non,
non, non, il y a eu... Après, il y a eu... Enfin, nous, à l'époque, on a eu quand même beaucoup d'aide. Hein, pour la prise en main de l'ordinateur, il y a eu des séances d'ergothérapie. Bon, il a été beaucoup aidé, mais c'est... En fait, puis moi j'avais une espèce de croyance, c'est que comme j'y étais arrivée seule et que je l'ai vu aller chez l'orthophoniste pendant des années et des années, j'ai un peu l'impression que parfois on en voit du rêve. Alors pourtant je dis aux parents d'aller chez l'orthophoniste, d'aller chez l'orthoptiste, et je suis fondamentalement persuadée que c'est important, hein. Mais ça ne résout pas tout, en fait, parce qu'on n'a pas encore vraiment compris ou trouvé le moyen d'aider efficacement les enfants dans la globalité de ce qu'est la DIS. Donc, c'est important qu'ils se sentent pris en charge, qu'ils se sentent soutenus par leurs parents, par un système, l'école, qu'on leur propose des aides. Mais pour l'instant, ça ne résout jamais tout, donc... Je me suis perdue dans ma phrase.
Non, quand c'est complètement. Voilà. Sophie, Félix, lui, il avait des ordinateurs spécifiques ou pas du tout ?
Non, rien du tout. Nous. Félix a été le premier PAP à l'époque,
ouais.
Au collège. Et après, non, moi, ils ont juste eu ce tiers-temps. Ils n'avaient pas le droit à l'ordinateur à l'époque. Et... On essayait d'avoir des aides pour que les professeurs donnent les cours, mais c'était très 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 compliqué et j'ai l'impression que ça l'est encore, de ce que j'entends.
Alors nos deux Félix ont 6 ans de différence et ça a un petit, voilà, ça avait un peu évolué entre le tien et le mien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a sur certains logiciels, on peut faire lire des PDF ou lire des documents Word. Donc les professeurs, à l'époque, ils acceptaient de donner leurs cours sous format informatique pour que l'enfant puisse l'écouter à la maison.
La police est importante aussi hein, sur l'ordinateur, justement, pour que ce ne soit pas troublé. Donc, il y a des livres aussi qui sont écrits ou des textes qui sont écrits avec plus d'espacement et quelquefois même des sauts à la ligne. Moi, je sens que j'ai besoin de compartimenter pour bien voir plutôt que quand tout est assez, c'est très difficile. Et ce qui est étonnant, moi, j'ai travaillé avec... le père des enfants de Sophie, qui est justement dyslexique, qui travaille dans l'événementiel, et je travaille souvent avec quelqu'un d'autre qui est exactement pareil dans l'événementiel, qui, à mon avis, est dyslexique, et ben, au lieu d'écrire des phrases, qui sont justement très très longues et tassées, ils disent une action, par ligne, voilà. Donc c'est des méthodes, et finalement, en plus, ils sont très bons dans l'organisation, tous les deux. Hein, donc on voit qu'il y a d'autres compétences qui sont mises. Et c'est vrai que c'est difficile quand... d'autres personnes voient leurs écrits, il y a toujours une petite remarque qui n'est pas très agréable par rapport à l'orthographe. Justement, est-ce que vous pensez que ce serait important qu'on puisse reconnaître, comme aux États-Unis, c'est une qualité qu'on met, comme une personne qui voulait justement avoir un tampon qu'on puisse mettre dyslexique sur nos copies ou sur nos CV, est-ce que pour vous, c'est acceptable? C'est une évolution ou c'est très...
Je ne peux pas répondre puisque je ne suis pas 10 et je ne sais pas ce qu'en penseraient mes enfants. Je pense qu'ils ont encore du mal à le dire,
ouais.
Qu'ils sont dyslexiques.
Moi, j'avoue que ça fait que quelques années que je le dis en réunion de parents, en leur disant, bah voilà, moi je corrige mes copies, parfois je suis fatiguée, donc il y a des coquilles qui restent, c'est comme ça. J'ai d'autres atouts et ben profiter de mes atouts et puis laisser les fautes d'orthographe de côté.
On arrive à la fin de cette émission. Donc à la fin de l'émission, un petit mot de conclusion chacune ou sinon à la rigueur, est-ce que vous pourrez rajouter à la phrase, bien sûr dyslexique et alors le mot que vous avez dit au départ et un autre mot.
Réussir.
Garder l'espoir.
Garder l'espoir.
Ouais.
Merci à nos invités. Sophie, vous pouvez retrouver aussi pour ces ateliers tricot à Diolfi. Justement, Sophie, c'est indiqué pour les 10, le tricot.
C'est indiqué pour tout le monde, le tricot.
C'est où et quand, en fait, ces ateliers?
Pour l'instant, c'est à la mine d'Arles, apéro tricot le mardi soir. Mais ça va peut-être changer.
D'accord, on se tiendra au courant. Et est-ce que tu es toujours prête à aider quelquefois, justement, des
oui.
enfants ouais. Voilà.
Oui.
Donc vous pouvez toujours retrouver Sophie, que vous trouvez sur la place Chatora, Sophie Motel-Création. Je ne sais pas si tu as envie qu'ils viennent là-bas, mais voilà, en tout cas, c'est un contact.
Ce n'est pas sur la place Chatora, c'est dans la rue des Raymonds.
La rue des Raymonds, voilà, juste en face du bureau, à Diolfi. Merci à Agatha aussi, notre institut. En or pour les dyslexiques, hein, je dirais. Merci aussi aux bénévoles, Thibaut qui était à la console et Lucie qui l'a assisté. Pour ma part, je remercie Radio-là de la confiance qu'ils m'ont donnée pour ces deux premières émissions. Voilà, et je dis ouf, en espérant qu'elle vous aura permis de comprendre un peu plus la dyslexie. Vous pouvez réécouter ces deux émissions et la partager sur le site de Radio-là. On se quitte sur une reprise d'une chanson de Richard Gottener. Que vous avez déjà entendu si vous avez eu la première émission, mais qui dit pas mal de choses sur la dyslexie. Une reprise qui s'appelle « Le mambo du cerveau ». Je vous conseille de bien écouter les paroles qui parlent très bien de la dyslexie. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Tout se mélange dans le cerveau. On s'en mêle les pinceaux. On avait tout appris, on avait tout compris. Mais voilà, c'est comme si on était étourdi. C'est faux. ça devient un réflexe. On nous pointe de l'index, un dit ça interpelle. Quoi t'aimes pas le bécherel? Et tu confonds encore les voyelles O et O. T'as oublié tes tables, à croire que t'es incapable. Gros sanglot, malgré le gros boulot, le par cœur, les zéros, c'est le mauvais combo. C'est juste un trouble d'apprentissage neurologique, faut changer les pratiques. À l'aide de couleurs, de formes ou de mots-clés, tout penser en 3D, me faire redessiner. Outils mémotechniques, vive la créativité, toute ma scolarité, faudra me faire inventer. Cerveau, maintenant, pense en réseau. Les enfants, les ados, les parents au bureau. Et l'eau, les enseignants, ensemble on est conscients. C'est un cadeau à partager. Des compétences pleines de sens. Le monde entier peut profiter. Les 10 célèbres ont fait la différence. Stop!